un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'histoire se passe en 2017. Mike et Stéphane sont jumeaux et s'intéressent à ce qu'on appelle le naturisme urbain. Une pratique qui consiste à s'emparer ponctuellement ou dans la durée d'espaces urbains dont le simple appareil d'une beauté qu'on arrache au sommeil aurait dit racine. Ainsi, une association a-t-elle par exemple proposé une visite du palais de Tokyo nu, pour laquelle elle a reçu 7000 demandes, raconte Le Parisien, pour 160 places disponibles. Mike et Stéphane, eux, décident donc d'ouvrir un restaurant naturiste dans le 12e arrondissement. 40 places, ouvert uniquement le soir, où il faut donc souper tout nu. Ils baptisent le lieu Au Naturel, un jeu de mots digne des meilleurs salons de coiffure. Faut-il être majeur pour y dîner? À quel moment et où se déshabite-t-on? Une telle pratique est-elle légale? Le restaurant réussira-t-il enfin son pari? L'histoire ne donne hélas pas beaucoup de détails. Mais 2 ans après l'ouverture, en février 2019, Au Naturel ferme définitivement ses portes. Et ce ne sont pas des problèmes moraux qu'ont rencontré les jeunes entrepreneurs, mais un business model pas pertinent, un chiffre d'affaires en chute libre et des financements insuffisants. D'après eux, l'échec du restaurant n'a donc rien à voir avec la nudité, mais plutôt avec le prix des plats trop élevé pour une clientèle en quête de dépouillement. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, c'est le 2e épisode d'une mini-série sur la nudité intitulée « À poil » et celui-ci est signé Claudia Prolongeau.
Donc je suis Françoise Chaussat, j'ai 61 ans. J'habite à Arvers, un petit village à côté de Libourne, dans le département de la Gironde. Nous allions très souvent en vacances dans le Médoc, et dans le Médoc depuis des années, la baignade était autorisée nue sur les plages, donc je n'avais pas d'opinion sur le naturisme en général. J'ai quitté la région parce que j'ai réussi un concours de l'éducation nationale et je suis allée m'installer en région parisienne en 1983. J'étais devenue attachée d'administration. J'ai postulé pour un emploi à l'école normale supérieure. On fait de la recherche en lettres, en littérature, mais il y a des laboratoires dans lesquels déjà on faisait de la recherche, disons, globalement en écologie, dans des environnements naturels préservés. En forêt de Fontainebleau notamment. Donc moi j'avais pour tâche d'organiser le fonctionnement de l'école et pour ça je recrutais les personnels appropriés. À un moment, le centre de recherche de Folles-Juif, la personne qui s'en occupait depuis des années prend sa retraite et ça semblait assez difficile d'arriver à trouver un successeur. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit susceptible d'entretenir des relations avec la municipalité sur place, avec des chercheurs qui arrivaient. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui parle un peu anglais. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit capable de vivre de façon assez isolée, parce que quand je dis que c'était à côté de Fontainebleau, c'était quand même à une vingtaine de kilomètres, et qui donne satisfaction un peu à tout type de public. Et, aux surprises, on a une candidature. Donc nous recrutons la personne en question, c'est un monsieur, il a une cinquantaine d'années, peut-être un peu moins, entre 40 et 50 ans, et il coche toutes les cases, il a l'air parfait, il est convivial, il est agréable, il est très équilibré, qu'il n'y a pas de problème. Nous on craignait un problème, quelque chose comme l'alcoolisme est possible, d'autres addictions, pourquoi pas. On était restés focalisés plutôt sur des choses habituelles. Mais en même temps, le monsieur était parfait. Environ un an plus tard, une personne de mon équipe me dit « Vous savez, il se promène tout nu. » Comment ça, il se promène tout nu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dis « Mais comment vais-je lui en parler ?» On m'a dit ça, c'est pas anodin. Et qu'est-ce que ça veut dire, se promener tout nu? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et puis, le type est toujours sympa. Donc je lui dis, venez avec moi dans mon bureau, j'ai besoin de vous parler. Et là, j'essaye d'engager la conversation. Vous n'avez pas quelque chose à me dire. Voilà, non, il n'avait rien à me dire. Bon. Et je lui dis, est-ce que vous êtes naturiste? Et là, le type, mais il est... Une joie immense l'envahit, il est ravi et il me dit oui! Donc, l'idée, c'est... Il se balade nu. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'administration dans ce genre de situation? Je lui dis, écoutez, ça, c'est juste pas possible. Alors, il me dit, m'explique tout, le naturisme, pourquoi, comment, et que c'est une grande liberté, et que je sais pas. Oui, je lui dis, mais dans le travail, on ne peut pas. Bon. Et alors, lui me dit, mais c'est absolument pas répréhensible. Enfin, donc, visiblement, il était documenté. Et donc, je lui dis, écoutez, nous en reparlerons. Donc, je fais le travail du fonctionnaire, je préviens mon propre supérieur hiérarchique, et puis je cherche dans la réglementation comment je peux faire en sorte de lui prouver que si, il doit être habillé pendant qu'il bosse. Et bien, c'est pas si facile, en fait. Et là, ça, on tombe tout de suite dans le fantasme complet, c'est-à-dire que des directeurs de recherche qui me disaient « Oui, moi, je n'envoie plus mes étudiantes, mes travaux sur les mésanges sont interrompus, etc. » C'était vraisemblablement pas du tout le cas, je veux dire. Il y avait eu un comportement certes peu approprié, mais il ne s'agissait pas du tout pour lui d'être violent, agressif ou quoi que ce soit, vis-à-vis de qui que ce soit. Lui me répond « Oui, Madame Chaussat, je tiendrai compte de vos observations. » Et puis, quelques mois plus tard, en fait, le sous-préfet de Fontainebleau téléphone à l'établissement en expliquant qu'il y avait un problème. Et là, nous apprenons que, en fait, toujours notre type si sympathique qui gérait le centre de Folles-Juif, ce monsieur avait cru bon de participer à une émission de télévision. L'émission en question avait expédié sur place une journaliste et un caméraman qui étaient partis en promenade avec donc Christian. Il l'avait filmé s'habillant pour sortir et montant dans sa voiture. Ils étaient montés avec lui dans sa voiture. Et puis, il leur avait expliqué que sa voiture étant un espace privé, il se remettait nu dès qu'il était dans sa voiture. Et là, les gendarmes arrivent. Ils font sortir la journaliste et le caméraman de la voiture. Et hop, ils les mettent dans le panier à salade. Et puis, ils essayent de faire sortir Christian donc de son véhicule. Et lui, il sait très bien, il connaît très bien la réglementation. Il ne veut pas sortir parce qu'il sait que s'il sort nu, il est précisément dans le cadre de l'exhibition sexuelle et il ne veut pas du tout en arriver là. Donc, il essaye de remettre son pantalon, les gendarmes. Et ils essayent de le forcer vraiment à sortir. Et donc... On m'a dit qu'il y avait eu carrément un braquage, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont menacé d'une arme pour essayer de le faire sortir sans pantalon. Et en fait, il réussit à mettre son pantalon, il sort, il est emmené en garde à vue avec tout le monde, et nous apprenons qu'il va être jugé. Nous lui avions dit que s'il recommençait, nous ferions une procédure disciplinaire, et c'est ce que nous avons fait. Son dossier a été examiné environ un an plus tard. Et un an plus tard, le fait qu'un type se balade à poil, quelles que soient les circonstances dans lesquelles, tout le monde est bien d'accord que c'est pas si grave. Donc il a eu un blâme, ça disparaît du dossier au bout d'un an. Et c'était plus l'incompréhension que ça avait généré entre différentes personnes qui allaient avoir du mal à travailler ensemble que les faits en eux-mêmes qui, dans le fond, une fois expliqué, tout ça n'avait à la fois pas d'intérêt et pas beaucoup de gravité.
Alors, je suis Sylvie, j'ai 58 ans, actuellement sans emploi depuis quelques mois. Je vis à Soleil-Chartreux, donc c'est une banlieue sud de Paris, et j'ai quasiment pas bougé de la région. Mon rapport au corps, il était particulier puisque j'ai été malade très tôt, j'avais 22 mois. C'est ma maman qui, un après-midi, a voulu me lever de la sieste et je ne tenais pas sur mes jambes. Et elle s'est inquiétée, elle a vu le médecin. Et je suis arrivée dans un grand centre hospitalier de Paris. Et d'examen en examen, on s'est aperçu que c'était une polyarthrite. Moi, dans mon cas, j'ai eu la forme la plus sévère, c'est-à-dire déformante. Et donc, ça crée des douleurs, mais surtout, ça déforme les articulations. Et puis là, il s'en est suivi des hospitalisations. C'était des périodes douloureuses, ne pas pouvoir faire des choses toutes simples, en fait. C'est-à-dire bouger les mains, les doigts, marcher correctement. Donc, il s'est passé quelques temps comme ça. Et puis après, j'ai suivi tout un tas de traitements, de choses comme ça. Étant enfant, ça pouvait provoquer une gêne parce que oui, effectivement, vous êtes plus petite que les autres déjà. Vous avez vos frères à côté qui grandissent, puis vous, vous êtes là à côté ou vous restez à un stade un petit peu plus petit parce que la maladie fait que les traitements aussi. Et après, quand on devient jeune adulte et qu'on a envie d'aller vers quelqu'un qui vous plaît, là, c'est difficile parce que forcément... on est un peu repoussé gentiment. Non, je veux bien que tu sois près de moi, mais comme copine, parce que petite amie, non, on a un peu honte, on a un peu... on se dit, les copains, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Enfin, il y a tout ce genre de code de la société qui fait que vous êtes gentiment remis un peu à votre place, quoi. Mais effectivement, on a envie aussi de rencontrer quelqu'un, on a envie de séduire, on a envie de faire un petit bout de chemin avec quelqu'un. J'ai rencontré une première personne, j'avais à peu près 17 ans et demi. J'ai fini par me marier. Cette personne m'a beaucoup apporté parce que je me sentais libre, aimée surtout, et n'avais pas du tout de regard indélicat ou pour lui ça n'avait pas du tout d'importance. Donc on s'est très vite installés. Et chacun avait ses activités professionnelles, on a suivi notre petit bout de chemin comme ça. Et ensuite, 92, je rencontre un chirurgien qui se lance dans la chirurgie, parce que à un moment donné, il n'y a plus que la chirurgie qui peut soulager, et qui remplace l'articulation surtout. Et après, ça s'est un petit peu enchaîné, et à partir de 98, quand toutes les interventions ont été un petit peu derrière moi, il y a une petite fenêtre d'éclaircie. En 2005, c'est l'annonce d'un cancer de mon mari et 2 mois après, c'est le décès. Moi, je connaissais la douleur et la souffrance, mais là, d'être à ses côtés et ne pouvoir rien faire pour lui, c'était compliqué. C'est vrai qu'à la suite de cette année 2005 qui a été douloureuse et difficile, on se regarde et puis on se dit il faut avancer, il faut arriver à trouver un équilibre, une lumière quelque part, une main tendue peut-être, je ne sais pas. Vous allez voir le médecin traitant, la première chose qu'il vous prescrit, c'est des antidépresseurs. Et alors ça, ce n'était pas du tout dans ma conception. Alors, j'essaye différentes médecines douces, j'essaye de faire sans. Et là, c'est un peu la descente, la glissade même. Et là, je me dis, peut-être qu'on va être obligé d'en passer par les antidépresseurs. Et là, j'en discute avec le pharmacien. Et on arrive à une certaine discussion. Il me dit, est-ce que lorsque tu vois quelqu'un de torse nu dans son jardin, est-ce que pour toi, c'est choquant? Je lui dis, non, la personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans son jardin. Pour moi, il n'y a pas d'incident majeur, quoi. Et de fil en aiguille, il me propose de venir participer à une randonnée naturiste. Et là, je lui dis, non, ça ne va pas être possible. Ah bon, mais pourquoi? Non, parce que moi, mon corps, je ne l'ai jamais exposé à d'autres personnes que le milieu médical, ou mon mari, ou mes parents. Et puis, j'en discute avec ma meilleure amie, tout ça. Et puis, ça m'est resté dans la tête. Et je me dis... allez, pourquoi pas essayer? Donc, on est en 2006. La première balade qui est proposée, c'est fin avril. Je prends mon sac à dos, mes baskets et j'y vais. Et le matin, il faisait frais quand même quand on est parti. Donc, on est tous restés habillés. On s'est même abrité pour la pause déjeuner parce qu'il a plu. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas, miraculeusement, on a vu le soleil arriver avec une chaleur à 20 degrés au moins. Et l'organisateur de la balade, mon pharmacien, nous dit « Eh bien, on va pouvoir y aller. » Alors là, je regarde un peu tout le monde autour de moi. « On va pouvoir y aller. » C'est quoi ? On va pouvoir y aller. Et là, je me dis « Tu ne vas plus pouvoir y couper. Hein. » Et puis là, tout le monde s'est mis au coffre des voitures. On a déposé les affaires. Comme le matin, il avait fait frais, on avait gardé les gilets, les caouets, tout ça. Donc, ça faisait des couches supplémentaires à enlever. Et au fur et à mesure qu'on s'effeuillait, je me disais « Bah oui, là, on arrive. Ça va être... Il n'y aura plus rien à enlever. » Donc là, effectivement, on est arrivé au moment ultime où, oui, c'est la nudité. C'est montrer son corps, oser le montrer. Et puis, je me suis retournée. Bon, et pas de regard particulier, pas de questionnement dans un premier temps. Bon, j'ai enfilé mon sac à dos. Et puis, j'ai commencé à faire quelques pas. On se dit, c'est pas si difficile que ça, en fait. Les seules choses qui arrivent tout de suite, c'est les éléments naturels, quoi. Le vent, le soleil, la chaleur, une feuille qui vous tombe dessus, une petite brume, une petite pluie, toute légère, vous fait un bien fou sur le corps. Et ça, on ne le mesure que quand on a quitté nos vêtements. Donc de ce jour-là, j'ai plus du tout arrêté le naturisme, en fait, parce que je me suis rendu compte que ce que je cherchais à évacuer de mon corps, je l'ai déposé dans la nature. Quand je fermais la porte chez moi, le sac à dos était très très lourd parce que j'emmenais tout ce qui me pesait. Et quand j'avais marché, je laissais tout en route. Et quand je revenais ici, dès que j'avais la main sur la poignée, je me disais « Ah, ça y est, le sac est en train de se remplir de nouveau. » Et après, un jour, cette image allait être complètement disparue. En fait, je revenais, mais ça y est, c'était derrière moi. Finalement, j'ai trouvé mon traitement. Et du coup... Je surchauffe pas pour être nue, mais dès que je le peux l'été, dès que je le peux être dans la nature, la première chose, c'est de retrouver ces éléments qui m'ont fait du bien, parce que les douleurs, elles n'ont pas disparu non plus, comme ça, mais j'ai appris à m'accepter. Lors de nos randonnées naturistes, on ne veut absolument pas choquer, et en cas de rencontre, si on sent que la personne en face ne va pas dans ce sens, si vraiment ça pose un souci, on remet un petit vêtement rapide, et puis on explique aussi que le naturisme est une philosophie de vie, mais on ne veut pas l'imposer. On a un ami proche qui a été interpellé par la gendarmerie, et on a décidé, avec un petit groupe, de créer une association pour que les naturistes ne soient plus considérés comme des exhibitionnistes sexuels. Pour rendre un petit peu ce que le naturisme m'a apporté, j'ai accepté d'en prendre la présidence. Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Je m'appelle Élise Griffon, j'ai 45 ans et j'habite à Paris. Le grand bonheur chaque année, c'était de partir en vacances à Montalivet, le berceau européen du naturisme, avec tout un rituel qui consistait à prendre la voiture, faire une étape sur la route, voir des amis qu'on aimait bien. Moi j'adorais parce qu'à chaque fois il y avait des petits chatons. Le lendemain, on arrivait enfin au terme d'un immense voyage de plusieurs centaines de kilomètres. On arrivait à Royan. Ensuite, on prenait le bateau qui est juste le bac pour relier le Royan au Verdon. En fait, c'est juste comme changer de continent pour nous. On avait l'impression de changer de monde. Dès qu'on passe l'estuaire, c'est des dunes, des pins. Et même l'odeur des pins nous saisit. Et c'est pas du tout le même paysage. Et finalement, on arrivait à l'entrée du centre Elio Marin, où il fallait malheureusement encore faire la queue à l'accueil. Et là, chaque fois, ça faisait toujours un peu bizarre de passer en fait de l'autre côté, du côté des gens nus. Et ça s'arrêtait au moment même où je me déshabillais. Et là, une fois que j'étais nue, j'avais complètement oublié tout le reste. Et c'est vrai que le fait d'être nue, ça veut dire pouvoir aller se baigner, être au soleil. C'est les vacances, la liberté. Donc c'était une fête. Je crois qu'on a arrêté d'y aller parce que mes parents ont senti, avec l'arrivée de l'adolescence et de la puberté, ils ont senti une année que j'étais moins à l'aise. Et l'année d'après, on est parti faire un road trip en Europe. Puis l'année d'après, on a fait un autre road trip en Europe, etc., etc. J'ai grandi, j'ai complètement changé d'univers avec l'adolescence. Et je crois que peu à peu, bon, j'ai un peu oublié. Après, c'était quand j'étais jeune adulte, c'était plus des vacances en mode camping en Bretagne, on fait les fous, ce genre de vacances un peu fauchées d'ado. Oui, des vacances comme ça plutôt. Plus tard, j'ai rencontré mon compagnon et il y a une maison dans sa famille qui se trouvait dans un coin que je connaissais pas du tout, en Chalosse. C'est entre les Landes et les Pyrénées, donc on s'est dit on n'a qu'à aller voir. Et puis, une fois sur place, on a un peu exploré et on se disait quand même, on est à même pas 100 km de la côte, donc allons-y. Et on est allé au niveau de... C'était près de Dax, donc je crois que c'était à Mollette, même si c'était pas au même niveau, puisque Mollette, c'est beaucoup plus au sud, mais c'est quand même toujours la même, le même paysage, en fait. J'ai eu un choc en retrouvant le paysage dunaire et de forêt de pins et l'océan, parce que c'était comme un miracle. Quelque chose qui ne devait plus exister, et en fait, ça existait encore. Et je me suis dit, mais en fait, Montalivet, ça doit exister encore. Je me dis, est-ce qu'il y a encore la boutique de Farce et Attrape ? S'il y a toujours le super bon resto de poissons où il y avait des sardines grillées, tout ça me revient, quoi. Et à partir de là, chaque été, on est retourné sur cette côte. On adorait, il y avait plein de trucs à faire, on est allé avec des copains et tout... Mais moi, j'avais du mal à me baigner en maillot de bain, donc de toute façon, je me mettais au bout de la plage, nue. Mais le problème, c'est une côte avec des grosses vagues et des courants, et j'étais pas du tout à l'aise de me baigner en dehors des zones de baignade, donc je pouvais pas me baigner loin, et c'était un peu frustrant. Donc, peu à peu, je me disais, mais il faudrait retourner voir Montalivet. Mais j'appréhende aussi parce que c'est les souvenirs d'enfance et on peut se gâcher une image. Si en retournant à un endroit, c'est décevant. Bon, ça m'enlèvera pas mes souvenirs d'enfance, mais j'aurai une nouvelle image par-dessus qui risque de ternir l'ancienne. Donc c'était un peu risqué. Je voulais pas trop d'un coup, en fait. C'était déjà beaucoup de profiter de ces paysages et de cette atmosphère vraiment particulière. Quand je rentre à Paris après ces vacances, à plusieurs moments dans l'automne parisien, l'hiver parisien, je repense à ces endroits et j'ai vraiment envie de m'y réfugier. J'ai commencé à regarder sur Internet et j'ai vu que ça existait encore, j'ai vu des photos et je me suis dit mais c'est dingue, il y a encore le cinéma plein air, il y a encore le centre commercial, ça ressemble à ce que c'était dans mon souvenir, c'est fou. J'avais tellement envie d'y retourner quand j'étais à Paris que j'ai trouvé un moyen en fait de m'y projeter, c'est que j'ai décidé de faire une bande dessinée, de raconter une histoire liée à mon enfance, à mon expérience à Montalivet, qui mettait en scène cet endroit. Tous les week-ends, je dessinais des pins, des dunes, et je passais des heures à chercher la bonne couleur pour le ciel et l'océan. Et je dessinais une petite fille nue et des enfants nus et des gens nus, et avec plein de couleurs de peau, plein de couleurs de cheveux, parce que c'est vraiment un truc de beauté des couleurs, quoi. De couleurs des gens, couleurs de la lumière là-bas. Ça rend les choses un peu argentées, en fait. Et donc les couleurs ressortent un peu différemment, et c'est magnifique. Et quand la BD a été terminée, eh bien j'ai décidé d'aller voir, de retourner au centre Héliomarin. Je suis retournée à Montalivet en 2016. Il pleuvait, mon compagnon appréhendait un peu. On est arrivé en voiture avec les essuie-glaces, là, ça ressemblait pas du tout à l'Éden. Mais le soleil est revenu et après, tout s'est très bien passé. Et là, on est resté une semaine et c'était génial. C'était génial. C'est comme si j'avais enterré un trésor et oublié qu'il était là et que je le retrouvais. Et du coup, j'ai des souvenirs qui me sautent au visage au détour d'un chemin. Et j'arpente comme ça les chemins parce que je me souviens. Je me dis, Ah, mais là, cette année, on a campé juste là, en fait. Et là, je me souviens, quand on revenait du cinéma dans la nuit, c'était pas éclairé. On avait nos petites lampes de poche et c'était très impressionnant. Et on revenait avec les images d'un film en tête, sauf qu'on revenait dans le noir, quoi. Une fois, on a vu Alien, j'en menais pas large, quoi. Et en même temps, on était sous une voûte d'étoiles qu'on voit incroyablement bien, puisqu'il n'y a pas de lumière. Et puis après, on allait s'abriter dans nos petites tentes. On entendait le vent et il pouvait se passer beaucoup de choses à l'extérieur, quoi, dans la nuit. Et il y a plein de gens qui vous diraient que ça a énormément changé. Et moi, la première chose que j'ai vue, c'est que ça n'a pas changé. Alors depuis, on a eu deux enfants, deux petits garçons, et on y retourne tous les ans. On y reste 3 semaines. Je crois qu'il y a des très vieux pins dans lesquels je jouais quand j'étais gamine, quoi. Et je crois que je les vois encore. Et ça, c'est une joie. Et mes deux petits-enfants, ils adorent cet endroit, ils adorent, hein. C'est incroyable. Et c'est vrai que je pense que je leur offre quelque chose en les amenant là, en fait. Une sensation de plénitude et de liberté, liée au fait qu'ils sont nus et en sécurité et dans la nature. Je trouve que c'est intéressant dans l'éducation des enfants de leur montrer ce qu'est l'humanité, même nue, quoi. Ce que c'est des grands-parents, ce que c'est des personnes âgées, des bébés, des jeunes, des grands, des gros, des petits, toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs, toutes les formes. Au début, ça fait bizarre, puis en fait, bon, c'est vrai qu'on regarde même plus, on voit même plus, en fait, hein, mais c'est quand même très beau. J'y vais parce que il se passe quelque chose dans ma tête et dans mon corps, et je sais pas très bien quoi, mais à chaque fois que j'y vais l'été, il se passe quelque chose, et je suis plus la même en ressortant, et je me sens beaucoup mieux.
C'était À Poil, deuxième épisode, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Étienne Gracianet. Merci à Sylvie, à Élise et à Françoise, ainsi qu'à Rita Ruggirello, notre stagiaire, et à Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre.